Bonjour tout le monde. Content de rencontrer autant de Belges. Chaque église locale est un peu une pièce d'un puzzle et chacune révèle une facette de notre Créateur et de notre Rédempteur. Alors hier soir, j'ai été très bien reçu dans une famille sicilienne en Belgique. D'ailleurs, j'ai très bien dormi parce qu'on m'a servi, alors je vais essayer de me souvenir, un arancino. Et après, pour le dessert, il y avait une tranche d'ananas et elle y a versé beaucoup de maraschino ou quelque chose comme ça. Mamma mia, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Le pauvre empereur est dément ? Très bien. En 1980, nous avions loué un appartement à Beach en Moselle, en face du 4e régiment des cuirassés, pour travailler à l'implantation d'une église. Après quelques semaines, le propriétaire de cet appartement nous a invités pour le dîner. Ce retraité nous a alors expliqué à Marianne et moi qu'il avait l'impression d'avoir raté non seulement sa vie de couple, pas très agréable pour son épouse qui était présente, mais aussi sa vie. Peut-être que j'étais appelé à faire autre chose. Quelle tragédie ! Arriver à la retraite et avoir l'impression d'avoir couru en vain. J'avais 25 ans, Marianne 3 ans de moins. Et entendre cela d'un homme qui aurait pu être notre père nous a profondément impressionnés. Que faire pour ne pas vivre en vain ? Il s'agit de discerner notre appel et y répondre. Quel est-il ? Comment et où y répondre ? Ai-je un appel particulier ? Voilà quelques questions auxquelles j'aimerais donner des éléments, au moins, de réponse ce matin. Alors, appel signifie en fait vocation. Dans le langage courant, le mot vocation évoque souvent une attirance, un goût particulier pour une profession ou un état. On dit que quelqu'un, il a une vocation de musicien, apparemment certains l'ont ici, ou encore de célibataire, il y en a moins, de père ou de mère de famille. En fait, le mot trouve son origine dans les textes du Nouveau Testament où apparaissent le mot « appel », le verbe « appeler » et le participe « appeler ». Dans l'Ancien Testament, le PowerPoint arrive, c'est bon, très bien. J'attends un tout petit peu pour que la technique puisse suivre. Voilà. Dans l'Ancien Testament, la notion d'appel revient 700 fois. L'appel de Samuel en est un bon exemple. L'Éternel l'appelle 3 fois. Voilà, on va y arriver. Essaye d'avancer. Ouais. Encore. Encore. Voilà. Donc, l'appel de Samuel en est un bon exemple. L'Éternel l'appelle 3 fois sans qu'il comprenne ce qui se passe. Puis au 4e appel, sur les conseils d'Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et c'est cet appel qui va l'établir en tant que prophète reconnu par tout Israël. Abraham, Moïse, des chefs militaires, des rois, des prophètes sont appelés. Israël est aussi collectivement un peuple appelé. « Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'ai appelé. » C'est cet appel qui transforme Israël en serviteur de l'Éternel. « Toi, Israël, mon serviteur que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. » Ensuite, dans Lévitique et Nombre, l'auteur utilise souvent le terme « sainte convocation » ou « sainte assemblée ». Et le mot désigne un rassemblement comme celui-là, constitué suite à un appel, une publication. Deuxième question, qui est-ce qui appelle ? Dieu a appelé tous les hommes précités. Parfois, des hommes sont appelés par d'autres. Élie désigne, par exemple, Élisée, comment ? Je vais toujours à nouveau vous faire penser avec moi, hein ? En jetant son manteau sur lui. Mais il a été chargé par Dieu de le faire. Cela fait de Dieu le maître d'œuvre. Je ne peux pas m'appeler moi-même. Dieu est celui qui appelle. C'est aussi ce que dit le Nouveau Testament. Dieu le Père a pris l'initiative. Il a souhaité entrer en contact avec chacun d'entre nous, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Il nous a adressé un saint appel, dit Timothée, à cause de son propre plan et de sa grâce. Jésus appelle. Paul s'adresse à ses lecteurs romains comme étant des appelés par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit appelle. C'est lui qui dit à l'église d'Antioche, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Est-ce que nous nous rendons compte ? Celui qui a créé le ciel étoilé nocturne, celui qui a pensé la pâquerette du pré voisin, s'intéresse à chacun d'entre nous depuis l'éternité. Il y a quelques mois, j'étais à Dallas dans une grande église où ils sont tous les dimanches matins plus de 1000 personnes. Et voilà que le pasteur me salue, moi, le petit Frenchie d'un petit village alsacien. Pour un court moment, ça m'a donné l'illusion que j'étais quelqu'un d'important. Par contre, quel privilège que l'appel divin. Il est sans comparaison. Celui qui a créé l'immensité de l'univers s'intéresse à chacun d'entre nous. Alors comment douter de ma valeur ? À quoi sommes-nous appelés ? Je pense qu'il y a tout d'abord la vocation créationnelle. Pour se faire une idée juste, il est bon de revenir à l'origine. La Genèse présente Dieu comme le créateur, le souverain et le soutien de la création. Tout existe par lui et pour lui. C'est lui qui a créé notre espèce après avoir fait tout le reste. Puis Dieu confie à l'être humain des missions et lui délègue pour cela son autorité. Alors, quels sont les différents aspects de cette vocation créationnelle ? Une petite idée ? Soyez féconds. Il s'agit de se reproduire, de peupler la terre, littéralement de pulluler. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus et presque autant d'abonnements au téléphone mobile. Mais le taux de fécondité est très bas en Europe. Je crois que le vôtre a un peu grimpé et atteint 1,78. Je crois que c'est à Bruxelles, d'ailleurs, qu'il est le plus haut. Nous, en France, on est juste derrière l'Irlande avec un taux de fécondité de 2,08 enfants par femme. Être fécond. Deuxième objectif qu'il a donné, soumettre la terre, dominer le monde animal. L'ordre d'assujettir n'implique pas que la création se trouvait dans un état sauvage, hors de tout contrôle, puisque Dieu lui-même l'avait déclarée bonne. Mais l'être humain devait la gérer, veiller à son bon fonctionnement. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Puis il y a une troisième facette. Il est dit qu'il s'agit de cultiver et de garder le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors pour le cultiver, littéralement pour travailler le sol. Le verbe est parfois traduit par servir. Par exemple, lorsque Jacob a servi 14 ans, pour ses deux épouses. C'est le même terme. L'homme doit servir cette terre, car il en est tiré. Un lien profond l'unit à elle. Et peut-être que les crises écologiques actuelles ne sont pas provoquées souvent par la cupidité, l'égoïsme. Nous parlons de propriété privée. Il conviendrait plutôt de parler d'intendance. Ensuite, pour protéger, garder cette terre, on peut se poser la question contre qui ? Peut-être contre cet ennemi qui va bientôt s'approcher du peuple, du premier couple avec ruse et qui détruit tout ce qu'il maîtrise. Le mot est aussi traduit par prendre soin. Au temps de Moïse, par exemple, il fallait cultiver la terre 6 ans, puis la 7e, un temps de jachère. Nous remarquons donc que la Bible s'ouvre avec un Dieu qui travaille. Il crée les cieux et la terre, comble les hommes de bonnes choses, puis qu'est-ce qu'il fait ? Il se repose. Créés à sa ressemblance, nous sommes aussi faits pour travailler et nous reposer. Notre œuvre, notre vocation se calque sur la sienne. Quelques applications à ces premières idées. En répondant à l'appel à nous reproduire, à gérer et à protéger la création de Dieu, nous faisons sa volonté. On en parlait l'autre jour avec Marianne. Est-ce que le fait de manager notre habitation, de pourvoir à une partie de nos besoins alimentaires, d'accueillir, de nourrir tous les gens de passage chez nous, est-ce que c'est moins spirituel que de prêcher à Charleroi ? Non. Toutes les activités légitimes, non pécheresses, sont bonnes, car Dieu nous a créés avec un corps et une âme. Tout ce que nous faisons au quotidien, rempli du Saint-Esprit, est spirituel. Manier la tronçonneuse, le rouleau à pâtisserie, tout autant que de préparer un message pour Charleroi. Dieu nous a appelés à nous occuper de sa création. Cela concerne la production de nourriture, de vêtements, l'éducation, la santé. En faisant cela dans le cadre de mon emploi, rémunéré ou non, je réponds à l'appel de Dieu. Certaines associations de séjours de vacances parlent de moments spirituels pour l'étude biblique, comme si l'animateur de centre de vacances n'était pas spirituel lorsqu'il anime un jeu. Mauvaise compréhension. Certains membres d'église, vous l'avez peut-être remarqué chez vous, enfin les Belges sont différents des Français, ils parlent d'une certaine manière sur le parking du local de l'église, puis ils changent de ton une fois qu'ils sont dans le local de l'église. Est-ce qu'on est plus en présence de Dieu dans le local que sur le parking ? Je ne pense pas. Nous sommes, chaque chrétien et chaque église locale, la résidence du Créateur, que je sois à l'entreprise, devant la télé, au lit, en faisant l'amour ou en dormant. Nous sommes les mains, les oreilles, les pieds, les uns pour les autres. Dieu répond aux besoins physiques, émotionnels, spirituels des autres par notre intermédiaire. Dieu se sert de chacun de ses enfants et de notre amour pour le prochain pour arriver à ses objectifs. Quelqu'un a dit, Dieu se cache derrière le travail humain pour diriger le monde. Deuxième observation, toujours pour ce premier point. En fait, nous vivons notre vocation dans le cadre de relations. D'abord, dans la relation à Dieu qui nous a créés à son image. C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est ce qui donne à chaque homme de la dignité, même lorsqu'il est vieux, incontinent ou handicapé. L'oublier ouvre la voie à l'euthanasie, à l'avortement. Tu ne supportes plus ton conjoint, ton enfant, ton frère, alors ferme les yeux et dis-toi que c'est une créature de Dieu aimée par lui. Ensuite, nous vivons notre vocation dans la relation à l'autre, sexué et différent. Il nous a créés égaux en valeur, mais différents. Promouvoir l'homosexualité, c'est refuser la différence. Rejeter l'autre et aussi l'autre avec un grand A, disait Alain Nisus à l'Assemblée générale du réseau évangélique de France. Donc continuons à proclamer haut et fort que la Bible enseigne que Dieu a voulu dès l'origine le couple hétérosexuel, monogame. Proclamons aussi que la Bible enseigne qu'il aime l'homosexuel et souhaite sa repentance. Affirmons qu'il a voulu pour notre joie une sexualité qui s'exprime dans le cadre du mariage. Gardons-nous aussi, notamment ceux qui sont mariés, de regarder le célibataire comme quelqu'un de forcément incomplet. Alors, t'as enfin trouvé quelqu'un, hein? Toujours pas? Certains, dit la Bible, sont appelés à l'être. Jésus l'a été, et il n'y avait pas homme plus équilibré que lui. Donc, si tu es célibataire, tu es en bonne compagnie. Ensuite, la vocation se vit en relation avec la terre. Nous sommes tirés d'elle et nous tirons d'elle notre subsistance. Il nous faut donc la garder, la protéger. À cause de cela, nous trions nos ordures, nous faisons un compost, nous évitons de laisser couler l'eau inutilement, nous semons des fleurs pour les abeilles et depuis peu, Marianne et moi, on élève 7 poules. Ça nous a permis de couper en deux, en fait, de diviser par deux le nombre de détritus que nous avions. Vocation créationnelle. Mais nous avons aussi une vocation rédemptionnelle, celle qui découle de notre rachat par Jésus. À quoi sommes-nous appelés par notre rédemption ? À la vie et au partenariat avec Jésus. Nous pensons souvent à l'action lorsque nous pensons vocation. Mais les versets qui lient l'appel au salut et un style de vie sont beaucoup plus fréquents. Dieu nous appelle, dit 1 Pierre, à passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous fait passer de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la sienne. C'est le moment où nous expérimentons le pardon et devenons héritiers de la vie éternelle. L'année dernière, j'ai visité avec un groupe de missionnaires une partie de la ligne Maginot, le Zimmerhof. Qu'est-ce que nous étions contents de revoir la lumière du jour après 2 heures dans la froide pénombre. Par ses mensonges, Satan maintient des jeunes et des adultes dans des galeries sans chaleur, où l'air est souvent nauséabond, les relations humaines tendues. Il nous fait croire que l'ennemi est dehors dans la lumière. Dans cet endroit de la ligne Maginot, les Allemands sont jamais venus attaquer. Et c'est aussi le cas dans le domaine spirituel. C'est pas Dieu qui est notre ennemi et l'ennemi de notre liberté. C'est auprès de Dieu qu'est la clarté et la vie, et non pas loin de lui. Alors si quelqu'un est encore dans les ténèbres ce matin, laisse le Seigneur te sortir de ton bunker sans horizon. Si tu te sais captif, oublie le regard des autres, les mensonges de l'ennemi, et crie maintenant, « Seigneur, sauve-moi, libère-moi, je vais sortir de mes ténèbres. » Dieu nous a aussi appelés à la communion de son Fils, écrit l'apôtre Paul. Alors le terme « communion » ne désigne pas uniquement celle qu'on aura au ciel. Il y a quelque chose d'actuel, d'intime. Communion est synonyme de partenariat. Il nous appelle à partager la vie de son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Et c'est dans cette union que le partenaire qui nous a enrichis, c'est bien sûr Jésus. Quand moi j'ai épousé Marianne, je n'avais pas encore grand-chose. Elle avait déjà bossé. Donc, elle a ramené dans le mariage des choses intéressantes. J'ai bien fait de l'épouser. D'ailleurs, elle continue à faire. Mais c'est Jésus qui a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. En fait, Paul présente ici trois aspects du salut. Unis à Jésus, nous sommes sauvés de la peine que méritait notre péché. Il nous donne sa justice. Unis à Jésus, nous sommes aussi délivrés de la puissance du péché. Il est notre sanctification. Et unis à Jésus-Christ, nous serons un jour sauvés de la présence même du péché. La rédemption est en cours et un jour elle sera parfaite. Est-ce que nous réalisons combien nous sommes riches grâce à Jésus? Lisons la Bible pour savoir ce que nous avons sur notre compte. L'autre jour, j'étais sur Skype avec un missionnaire américain qui travaille aussi en France. Il ne roule pas sur l'or, même s'il est mieux payé que les missionnaires France pour Christ. Alors, il était en Californie, alors il a tourné l'écran de son ordinateur pour que je puisse voir la maison dans laquelle il était accueilli pour quelques jours. 700 mètres carrés, oh là là. Nous avons mieux. Nous sommes accueillis par Dieu. Il nous a appelés par la prédication de l'Évangile et Jésus partage ses richesses avec ceux qui croient. Franchement, moi je me sens tellement pauvre en moi-même, mais je sais que le Seigneur est là et c'est lui qui est riche. Donc si tu es un chrétien voyageur, je ne sais pas si ça existe en Belgique, à la recherche d'un plus, arrête de te balader. Médite l'Écriture, plonge tes racines en elle. Découvrir la beauté de Dieu, la perfection de l'œuvre de Jésus, franchement, moi, je trouve que c'est une réelle jouissance. Parfois, je suis réellement ému lorsque je découvre quelque chose de nouveau dans l'Écriture. Nous sommes aussi appelés à glorifier Dieu par notre comportement. Nous sommes appelés à être saints, dit l'Écriture, Romains 1, verset 7. Dieu avait délivré Israël du joug égyptien afin qu'il lui appartienne en propre, pour être une nation sainte. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner au quotidien que nous lui appartenons, que nous lui avons consacré notre vie. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, écrit Paul, mais à la consécration. Alors cela concerne la gestion de notre corps. Pour ressembler à celui qui m'a appelé, je m'abstiens de l'immoralité sexuelle. Je ne me livre pas au désir, mais je livre mon désir à la maîtrise du Saint-Esprit. Cela concerne le respect de la vie privée de mon frère. Chacun doit s'occuper de ses propres affaires et pas s'ingérer dans celles des autres. Je rendrai compte à Dieu pour la gestion de mes affaires et tu rendras compte à Dieu pour la gestion de tes affaires. Cela concerne justement aussi le domaine des affaires, le corps, la vie privée, les affaires, dit Paul. Je refuse de tromper mon frère, de porter atteinte à ses droits. Ce n'est pas parce que mon patron est chrétien que je peux le respecter moins. Un responsable d'église me disait l'autre jour que lorsqu'il y avait un repas gratuit, il y avait beaucoup plus de monde qui était présent. Ils avaient certainement la bonne motivation, hein? Je ne vis pas au crochet de l'Église par paresse, mais au contraire, je travaille pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Ensuite, nous sommes appelés à la liberté, dit le Nouveau Testament. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Il parle ici de deux libertés. De celle par rapport à la tyrannie de la loi. Essayez de se justifier aux yeux de Dieu en obéissant à la loi est un esclavage terrible. Parce qu'on n'y arrive pas. On finit par ressembler à des bœufs qui baissent la tête à cause du poids du joug de la mauvaise conscience. Mais Christ nous a libérés de cette mauvaise conscience en prenant la malédiction sur lui. Moi, je n'ai pas toujours obéi à ses pas, comme le disent ces chants qu'on a chantés avant. Souvent, j'ai désobéi. Mais sur toutes mes chemises sombres, j'ai ici un bouton rouge, parce qu'il me rappelle toujours que si je peux parler, si je suis juste au Dieu de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a versé son sang. Et quand les gens m'interrogent pourquoi j'ai un bouton rouge, je suis au cœur de l'évangélisation. L'autre liberté dont il parle ici, c'est la liberté de vaincre l'inclinaison au mal. Par la foi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous pouvons relever la tête. Il nous permet de changer d'attitude envers Dieu, vers les autres et envers moi-même. Et c'est en me détournant de manière impitoyable, il s'agit de déclarer la guerre au mal et en cédant à la conduite du Saint-Esprit que j'expérimente la maîtrise de soi. Donc si ce matin, quelqu'un est là, tenaillé par sa mauvaise conscience, arrête maintenant de te priver de l'amour immérité de Dieu. Le sang de Christ suffit pour ton péché de chrétien. Relève la tête. Si tu as excusé une action coupable ou toléré une attitude qui offense Dieu, nomme cela péché ce matin et fais une déclaration de guerre. N'accepte pas. L'Esprit de Christ veut reproduire la vie de Christ en toi. L'appel à devenir chrétien est un appel à la liberté. Ensuite, nous sommes encore appelés à vivre en paix. Deux versets, rapidement, dans lesquels Paul en parle. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ou, Romains 12, 8, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de toi, soyez en paix avec les hommes. Vouloir vivre en paix, c'est laisser le non-chrétien assumer ses choix. Ne pas vouloir lui imposer les miens. Beaucoup d'implications dans la vie familiale. L'appel de Dieu était une offre de paix avec lui. Et cette pédagogie de Dieu doit imprimer toute notre attitude. L'esprit querelleur qu'ont aussi certains chrétiens ou vengeurs ne porte pas le cachet de la sagesse d'en haut. C'est une sagesse d'en bas, nous apprend l'apôtre Jacques, qui sert les intérêts de notre adversaire. En février, j'étais en contact avec quelqu'un qui ne semblait s'épanouir que dans la confrontation. À un moment donné, je dis, écoute, on va arrêter. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, dit Jacques, ne peut être récolté que dans un climat de paix par des artisans de paix. Imaginez que la paix du Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs, de tous nos frères et sœurs. Que de conflits en moins dans les équipes missionnaires, dans les équipes pastorales, que d'églises et de couples divisés en moins. Marianne et moi sommes en relation avec deux couples qui parlent de divorce actuellement. Un jeune couple chrétien qui découvre que la vie après la lune de miel est bien plus difficile que ce qu'ils en pensaient. En fait, ils avaient confondu jusqu'à présent le sentiment amoureux avec le fait d'aimer en acte. Puis avec un couple de plus de 60 ans, elle a rencontré à une réunion de quartier un flirt de jeunesse. En est tombée amoureuse de nouveau et a quitté son mari avec lequel elle vivait un conflit latent et perpétuel. Que la vie est multicolore lorsque la paix règne dans la vie de couple. Grâce à Dieu, Marianne et moi, on ne s'est jamais couchés sans nous réconcilier. J'en loue Dieu. Comme l'activité devient agréable lorsque la paix règne entre collègues, que la paix est bienfaisante. Franchement, je me réjouis de retrouver mon équipe missionnaire vendredi. Si avec l'aide de Dieu, nous aimons comme lui, celui qui est haïssable, nous devenons des artisans de paix. Ça va, vous tenez encore un peu? Très bien, courageux, vous êtes braves les Belges, waouh! En plus, il y en a trois aujourd'hui, je ne sais pas comment vous faites, mais... Nous sommes aussi appelés à glorifier Dieu par notre service dans l'Église et dans le monde. Chacun dans l'Église a quelque chose à faire. Chacun dans l'Église a quelque chose à faire. Aux Thessaloniciens, Paul écrit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour compléter? Oui, très bien. Servir le Dieu vivant et vrai. Sauver pour servir. La vocation est aussi un appel au service. Aux disciples, Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. À Ananias, le Seigneur dit, vas-y, Paul est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom. À l'église d'Antioche, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous sommes appelés à servir dans l'église. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Galates 5, 13. Je ne dois pas d'abord être préoccupé de voir comment tous les autres de l'église locale me servent, mais comment moi, je peux les servir. Vous avez déjà entendu râler les chrétiens là ? Ouais, j'étais là, mais franchement, on ne s'occupe pas assez de moi. Et... Pour les servir, il y a une condition, c'est de les fréquenter. Là où j'habite, je m'associe à ceux qui ont le même père. Il est quand même tragique de rencontrer encore des chrétiens sans Robinson Crusoe. Et en plus, ils croient qu'ils doivent le rester. Certains voyagent d'église en église, picorent ce qui leur plaît sans s'engager pour le bien de la communauté qu'ils visitent. D'autres évitent de devenir membres car ils ne veulent surtout pas que quelqu'un se rapproche de trop pour les exhorter, les instruire afin de les faire progresser. Un de ses frères me disait dernièrement, « Jeannot, lâche-moi les baskets là. Je travaille sur moi-même. Je n'ai pas besoin d'influence extérieure. » Proverbe 18:1 dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Dieu sauve des individus, mais il les place dans un corps. Et dans ce corps, j'ai une fonction qui est l'expression de mes dons et mes compétences. Je tiens un stand dans un supermarché de livres, après les caisses. Je vois une jeune dame qui rentre dans le supermarché. Et en marchant entre les rayons où sont exposés les différents ingrédients, j'observe que son bras droit partait tout seul vers le haut. Elle tenait le caddie avec l'autre main, vers l'avant, vers l'arrière. En fait, cette gesticulation involontaire était due à une maladie. Ça m'a fait penser à l'Église. Parfois, j'ai l'impression que Christ, la tête, va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait encore, Jeannot ? Le bras, il part là. Le corps de Christ va bien fonctionner dans la mesure où chaque membre obéit aux indications de la tête et met ce qui lui est spécifique au service de l'ensemble de manière coordonnée. Je suis appelé à servir dans l'Église sous les ordres de la tête, qu'est Jésus. L'Église est donc un lieu de vie où l'on communique et travaille. Et Dieu accorde sa force pour les deux. Alors complétez la phrase qui suit. Je sers l'Église en... Pour vous, complétez la phrase, je vous laisse 30 secondes. J'espère que vous avez trouvé quelque chose. Nous sommes aussi appelés à glorifier Dieu par notre service dans le monde. Dans le livre d'Ésaïe, on trouve la thématique du serviteur. Israël, puis le Messie, et ensuite les convertis juifs et non-juifs sont qualifiés par ce terme de serviteur. Au chapitre 43 et 44, le Seigneur convoque Israël, son serviteur, et toutes les nations à une séance au tribunal. Et alors il demande aux nations de produire des témoins qui peuvent prouver que les idoles ont la capacité de prédire l'avenir. Ensuite, à quatre reprises, il appelle Israël, son serviteur, à la barre, comme son témoin. Il veut qu'Israël atteste devant les nations qu'il est le seul vrai Dieu, celui qui annonce longtemps à l'avance ce qui va s'accomplir, ce qu'il a conçu, il exécute. Le peuple qu'il s'est formé doit publier ses louanges. Et Pierre dit la même chose de l'Église. Elle a été rachetée afin d'annoncer les vertus de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette corporation qu'est l'Église a vocation de proclamer oralement, en s'appuyant sur un comportement adéquat, les hauts faits de Dieu. Nous devons publier, dire au loin les actes de la puissance de Dieu. Dieu appelle et se constitue un peuple qui le proclame jusqu'aux extrémités de la terre. Quelques applications de cette deuxième partie. Témoignons là où Dieu nous a placés. Fleurissons là où Dieu nous a semés. Chacun. Dans nos projets de vie, dans nos projets d'Église, n'oublions pas les autres régions, les migrants qui arrivent par milliers. Que de migrants dans la Bible ? Faites une fois une recherche. Que de migrants dans la Bible ? Et souvent, le plan de Dieu est passé par des gens qui ont migré volontairement ou pas. Les pays que l'on ne peut pas atteindre qu'en y travaillant dans son métier. Jésus, a dit Siméon, est la lumière pour éclairer les nations, le sauveur pour tous les peuples. Engageons tout ce que nous pouvons pour que Jésus puisse se constituer un peuple composé de toutes les ethnies. France pour Christ constitue une équipe d'implantation pour Reims. Nous aimerions démarrer l'été prochain. J'imagine que votre union a des projets d'implantation. Il y a certainement des régions en Belgique qui ne sont pas atteintes par l'Évangile. Pourquoi ne pas chercher un travail là-bas ou y aller à temps partiel avec une équipe missionnaire? Il nous faut conserver une vision missionnaire mondiale. Ceux qui sont doués pour les langues devraient se former pour la traduction. La directrice de Weekly France me disait à Missionnet il y a 2 ans qu'il restait 2000 ethnies sans un verset de la Bible dans leur langue. J'espère retrouver certains des 18-30 ans à Offenbourg, à Missionnet. Si vous voulez plus d'informations, il y a un stand. Mark Finbeiner vous donnera certainement des informations. Mais que ferions-nous, imaginez, que ferions-nous si nous n'avions pas cette parole de Dieu qui est une lumière sur notre sentier? Tant d'ethnies qui n'ont même pas un verset. Nous ne pourrions que marcher dans les ténèbres pour finir dans les ténèbres du dehors. Ensuite, ceux à qui Dieu a donné de bonnes capacités intellectuelles devraient apprendre à défendre une vision chrétienne de la vie publiquement. C'est une lacune en France, peut-être aussi en Belgique. 2 fois ces derniers temps, j'ai entendu Michel Onfray, qui se définit comme philosophe hédoniste et athée, sur un plateau de télé, ridiculiser la foi chrétienne. Croire en Dieu revient d'après lui à croire au Père Noël. Pourquoi manquons-nous de jeunes philosophes chrétiens qui sont invités sur les plateaux de TV? J'espère que nous aurons des futurs apologètes qui sortiront des églises belges. Si tu es indigné par les attaques de la foi, travaille dur, apprends à argumenter, forme-toi, afin que demain tu puisses donner gloire à Dieu publiquement auprès des penseurs de ton temps et à équiper l'Église. Ensuite, dans chaque Église locale, soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour voir qui il veut établir comme futur ancien, diacre, pasteur, docteur, diaconesse, ainsi de suite. Mais laissons aussi le Saint-Esprit identifier ce qu'il veut envoyer en loin, au loin, dans d'autres provinces belges, en France, juste passer la frontière, en Arabie Saoudite, comme ingénieur. Nous avons un combat à mener sur tant de fronts différents. Ne gaspillons pas de temps, d'énergie, d'argent pour des futilités. C'est celui qui tombe en terre qui porte du fruit. Je connais plusieurs jeunes candidats missionnaires. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas de soutien financier, parce que les églises sont trop petites d'où ils viennent. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a suffisamment d'argent sur nos comptes en banque, mais l'argent n'est pas toujours bien utilisé. Ce sont ceux qui donnent, qui expérimentent que Dieu pourvoit à tous leurs besoins selon sa richesse. Alors, question, ton appel, ta vocation, détermine-t-il le contenu de tes journées, le lieu où tu envisages de construire, le métier pour lequel tu te formes, le conjoint que tu sélectionnes, la somme d'argent que tu gardes pour toi? Si ce que je suis et ce que je fais est dédié à la gloire de Dieu et au bien d'autrui, que ce soit dans la cuisine, l'entreprise, l'école, les champs, dans le cadre d'un emploi rémunéré ou pas, j'aurai vécu ma vocation. Alors, quand viendra le moment de fermer les yeux pour de bon, le Seigneur pourra probablement dire, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, chrétien est mort. Encore quelques minutes pour une dernière question. Comment découvrir ma vocation particulière? Premièrement, existe-t-elle? Je crois que oui. Lorsque Dieu est présenté comme le potier qui façonne, l'Ancien Testament utilise un terme qui signifie « former selon une pensée préalable ». Malheur à ce qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-elle, à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Et plusieurs versets présentent Dieu comme celui qui conçoit, façonne, en vue d'une appartenance, d'une fonction ou de l'emploi d'un vase. Donc, je pense qu'elle existe, cette vocation particulière. Comment la découvrir? En étant à l'écoute de Dieu. Nous avons vu que c'est Dieu qui appelle. Dieu parle, il nous revient à nous d'écouter. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Écoutez le premier mot hébreu du credo juif. Écoute, Israël. Avant d'être un peuple qui parle, nous devons être un peuple qui écoute. John Piper a écrit « Le plus grand ennemi de la faim de Dieu n'est pas le poison, mais la tarte aux pommes. Ce n'est pas le banquet des méchants qui tue notre appétit des choses célestes, mais le fait de picorer constamment à la table du monde la bave des banalités que nous ingurgitons aux heures de grande écoute chaque soir. » Pierre a dû apprendre cette leçon au moment de la transfiguration. Comme il parlait encore, une voix fit entendre ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. » On n'a qu'une bouche, mais on a deux oreilles. Jésus s'entraînait avec Moïse et Élie, représentants de la loi et les prophètes. Il nous faut apprendre à écouter comme Jésus, ce que disent les Écritures. Il nous faut apprendre à écouter le peuple de Dieu. Il nous faut apprendre à écouter Jésus. Qui es-tu et que veux-tu que je fasse ? Habacuc dit, « Je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira. » Être à l'écoute de Dieu. Ensuite, posons-nous la question, « À quoi mon parcours me prépare-t-il ? » Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Moïse s'approche, Dieu l'appelle et lui donne une mission qu'il peine d'ailleurs à accepter. Mais le fait qu'il soit né en Égypte, que les sages-femmes n'aient pas tué les bébés mâles, qu'il soit récupéré par la fille de Pharaon, qu'il soit témoin des souffrances de son peuple et qu'il en soit indigné, n'est pas anodin. Tout cela l'a préparé à sa mission. Dieu nous prépare tous pour un appel distinct. Pierre est devenu pêcheur d'hommes. Il est appelé par Jésus pendant qu'il jetait le filet à la mer. En suivant Jésus, il deviendra un pêcheur d'hommes. Paul était faiseur de tentes, quelqu'un qui assemblait des pièces pour en faire une habitation. Il va devenir un rassembleur de convertis qu'il faut édifier pour en faire un ensemble bien coordonné. Dieu le choisit pour lui révéler vraiment ce qu'est l'Église. Jean a été appelé lorsqu'il réparait les filets. Et dans ses écrits, il ramène le peuple de Dieu à la vérité. Il répare l'Église. À quoi ton parcours, ta formation, ton expérience familiale te prépare-t-il ? Ensuite, découvre les dons que Dieu t'a donnés. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde sont toujours conférés en vue du bien commun. Chaque chrétien a été doté d'une capacité qui sera utile à la collectivité Église. Il s'agit donc de la découvrir et de l'utiliser, sinon je vais rater ma vie d'Église. Comment ? Ben découvre déjà et crois ce que la Bible dit au sujet des dons. Je ne sais pas si tu as déjà étudié ce thème. Accepte la souveraineté de celui qui distribue les dons comme il veut. C'est lui qui choisit. Et recherche dès à présent les besoins des autres membres. Je développe un tout petit peu de cette idée. On découvre ces dons en servant. En quoi est-ce que je suis utile avec joie ? Comment commencer ? Est-ce que tu connais une faiblesse de ton église locale ? Réfléchis voir. Il y a une faiblesse dans votre église ? Ben, commence par combler ce qui manque. Il y a de fortes chances que tu sois doué pour répondre aux besoins que Dieu te donne de discerner. Si tu discernes un besoin, peut-être que celui à côté de toi ne se rend pas du tout compte de ce besoin. Peut-être que Dieu t'appelle, toi, à répondre à ce besoin. Prends soin de quelqu'un dans l'Église. Prends soin de quelqu'un. Ça t'évitera d'être un chrétien râleur, souvent insatisfait, imbu de toi, qui vieillit en étant cynique et nostalgique d'un passé supposé idéal. De mon temps, quand moi j'étais jeune, ah, nous les vieux. Ensuite, accepte l'erreur. Sers, lance-toi, n'aie pas peur de faire des erreurs et permets aux autres d'en faire. Il nous faut voir le groupe de jeunes et l'Église comme un centre d'apprentissage et non pas comme une rencontre d'experts où chacun essaye d'en mettre plein les yeux aux autres. Sinon, les rencontres d'Église se transformeront en meetings d'acteurs et freineront l'émergence de vocation. Disciple signifie apprenti. Jésus a pris les 12 avec lui, leur a délégué des responsabilités, les a corrigés lorsque c'était nécessaire, mais il ne leur a pas retiré la mission. Alors tout spécialement aux jeunes, vas-y, écris, chante, sonorise, pratique l'hospitalité, exerce la compassion, enseigne, aide dans la rénovation du bâtiment. Tu découvriras dans quel domaine tu as le plus de joie à servir les autres en le faisant. Et puis d'autres constateront en quoi tu es doué. Le service auquel Dieu t'appelle sera en lien avec les dons qu'il t'a donnés. Et puis un petit mot à ceux qui ont déjà mis l'argent de côté comme moi. Sous un grand chêne, les petits chênes ne peuvent pas grandir. Alors les plus anciens dans les églises, à un moment, ceux qui ont toujours la responsabilité, ils doivent accepter qu'on coupe des branches aux chênes et qu'ils laissent la place aux autres. Nous sommes nous-mêmes parfois les responsables d'aujourd'hui, le frein à ce que de nouvelles vocations naissent et puissent se développer. Dernièrement, dans une assemblée générale où j'étais, un jeune s'est levé et a dit « Les anciens, vous vous plaignez parce que les jeunes ne prennent pas de responsabilité. Mais qui d'entre vous se prendra le temps pour cheminer à mes côtés pour me former ?» Il avait du cran pour le dire. Vous avez déjà tous vu des tractopelles. Vous savez, ces espèces de tracteurs, derrière, ils ont une petite pelle, et puis devant, une large pelle pour pousser le sable, et ainsi de suite. C'est deux manières de travailler. Il y a des gens, ils font toujours comme ça. Ils ramènent tout à eux. Il y a des responsables d'église, ils font toujours comme ça. Tout doit passer par eux. Sinon, ils ont l'impression qu'ils sont inutiles. Mais il y a une autre pédagogie de travail, c'est que j'utilise la pelle que j'ai devant pour renforcer la position des autres. Quelle est ta pédagogie? Tu ramènes tout le temps tout à toi? Ou est-ce que ton objectif, c'est de devenir inutile parce que tu as investi toute ton énergie pour fortifier d'autres et mettre d'autres en place? Nous devons mettre d'autres en selle. C'est bon, j'arrive au bout. Comment découvrir ta vocation particulière? Interroge ceux qui te connaissent bien. N'aie pas peur, leur avis ne change rien à ta valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ta valeur est déterminée par ce que tu es et non pas par ce que tu sais ou que tu possèdes. Tu es une créature de Dieu, que tu sois handicapé, intelligent, doué manuellement ou non. N'aie donc pas peur de demander aux autres de t'aider à discerner ta vocation particulière. Pierre a reconnu la sagesse de Paul pour aborder des sujets difficiles dans son épître. Et c'est au moyen de l'Église que l'Esprit de Dieu a mis à part Paul et Barnabas. Si notre appel vient de Dieu, il peut être fragilisé par le questionnement des autres. Mais dans un deuxième temps, il mûrira et s'enracinera davantage dans l'Écriture. Alors, en tant qu'Église locale, écoutons l'Esprit pour discerner ceux d'entre nous qu'il a mis à part pour un ministère qu'il a préparé pour eux. Sachons confirmer ou infirmer la vision que les autres ont de leur appel. Et sachons écouter l'avis des chrétiens imprégnés de l'Écriture. Et puis, quand on a discerné son invocation, il faut y obéir. Dieu ne nous la montre pas si nous n'avons pas obéir à ce qu'il nous montre. J'en profite pour ceux qui veulent approfondir ce sujet pour vous présenter deux livres qui sont derrière. Un excellent livre qui existait en deux tomes et qui est maintenant réuni dans un tome s'appelle « Le chrétien à l'aube du XXIe siècle ». Franchement, je circule dans pas mal d'églises et je suis toujours à nouveau étonné que les fondements ne sont pas posés dans beaucoup de vies. Dès que vous interrogez certains chrétiens, ils se rappellent qu'ils ont une fois entendu quelque chose à ce sujet. Mais souvent, les fondements manquent. Et quand l'épreuve vient, on est vite perturbé. Le chrétien à l'aube du XXIe siècle, vous retrouverez des idées similaires à ce que j'ai dit, encore mieux développées. Et puis un autre petit livre qui s'appelle « La vocation, l'appel de Dieu » jour après jour, de Frédéric de Coninck. Les deux sont derrière sur le stand. S'ils n'en ont pas assez, ils passeront certainement commande. En tout cas, la lecture est une manière de profiter des dons de frères et sœurs que nous n'avons pas dans notre église locale. C'est un excellent investissement. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout.